C'est Isabelle Rebelle qui vous parle. Nous poursuivons notre série « Prier à partir des Écritures par la méditation et la contemplation chrétienne » dans la tradition ignatienne. Cette série est l'adaptation française des entretiens en anglais sur le sujet du père Timothy Gallagher, entretien qu'on peut retrouver sur le site www.discerninghearts.com. Dans les épisodes précédents, nous avons décortiqué ces deux modes de prière que sont la méditation et la contemplation, et peut-être dévoilé des aspects nouveaux pour vous. Vous sentez peut-être monter en vous une objection. Est-ce que je suis vraiment en train de prier, ou bien est-ce que je suis juste en train d'utiliser mon imagination pour me laisser dériver? Comment savoir si ce que j'expérimente se passe vraiment en présence du Seigneur? C'est une question très légitime. Je suspecte que pour la plupart d'entre nous, cette question ne s'applique pas à la méditation, mais plutôt à la contemplation. Quand je suis en méditation, en train de réfléchir au sens des mots, par exemple de la première béatitude, « Heureux les pauvres en esprit », et que je me demande pourquoi Jésus ajoute « en esprit », la plupart d'entre nous ne doutent pas que cette activité soit une authentique prière et que le Seigneur y soit vraiment présent. Par contre, parce que la contemplation est probablement plus nouvelle, la question peut se poser de savoir si tout ce qui se passe en moi n'est pas juste le produit de mon imagination. Si, par exemple, je suis en train de prier avec le passage de la tempête apaisée, je suis là dans le bateau alors qu'il s'éloigne de la rive, tout est paisible, Jésus s'endort et puis les vagues et le vent se lèvent, les disciples sont saisis de peur et terrorisés, et je suis dans le bateau en train de participer à tout cela. Comment est-ce que je sais que ce n'est pas juste mon imagination qui me joue des tours? Comment est-ce que je sais que c'est véritablement une prière? Le premier point que nous devons considérer en réponse à cette question, c'est que si nous prions de cette façon, présents en imagination dans une scène, nous nous appuyons très solidement sur une longue tradition de saintes et de saints qui, à travers des générations, ont prié de cette façon. Évidemment, saint Ignace lui-même priait de cette façon. Mais il ne l'a pas inventée. En fait, il l'a découverte dans la tradition catholique qui l'a précédée, dans les écrits de saint Bonaventure et d'autres. Sainte Thérèse d'Avila parlait de prier avec l'humanité visible du Christ. Saint François de Sales, sainte Jeanne-Françoise de Chantal, dont nous avons déjà parlé, et beaucoup d'autres priaient de cette façon. Si nous décidons effectivement de prier en contemplation, nous pouvons avoir la certitude que nous suivons les traces de nombreux saints et saintes qui priaient ainsi avant nous. Nous sommes solidement ancrés dans la tradition de prière de l'Église catholique. En plus, vous remarquerez que la Bible elle-même, si vous la lisez, utilise le plus souvent des styles littéraires qui font appel à l'imagination. La Bible est essentiellement un ensemble d'histoires. Si on pense au premier livre de la Bible, qui raconte l'histoire des Israélites, par exemple en Égypte, la traversée du désert et la suite, beaucoup de choses dans les livres des prophètes, Maccabées, etc. Certainement les évangiles, dont la plupart des textes racontent l'histoire de Jésus. Et encore plus, le dernier livre des Écritures, le livre de l'Apocalypse, qui fait intensément appel à l'imagination pour instruire, à travers des images précises, les lecteurs. En mettant à contribution notre imagination quand nous prions à partir de la parole de Dieu, nous sommes simplement complètement dans le style des Écritures elles-mêmes. Plus tôt, nous avons cité Catherine, quand elle raconte sa prière de guérison avec la Passion du Christ. « Je voyais Jésus face à Ponce Pilate » ou bien « Je vis Jésus traîné dehors par ceux qui le conduisaient à sa mort. » Elle dit aussi « J'ai fixé la croix des yeux. » Dans chaque scène, elle prie en imagination par la contemplation. Il est clair que la Passion a été écrite pour être lue de cette façon. L'intention est que nous voyions ces scènes, que nous entendions ces mots et que nous participions de cette façon. Une prière comme celle de Catherine et d'autres que nous avons citées précédemment, ou celle de la femme devant la croix, entourée de silence, qui entendait seulement le son feutré des gouttes de sang de Jésus tombant sur le sol, qui chacune lui disait comment elle était infiniment aimée. Ces prières, bien sûr, sont vécues dans l'imagination. Mais je crois que vous pouvez percevoir, et on est encore dans le domaine du sacré, qui demande beaucoup de respect, à quel point ce qu'elle vit, même si cela se passe dans son imagination, est profondément fidèle à ce que l'Évangile raconte dans la Passion. Par sa participation en imagination, quand elle entend les gouttes de sang et que chaque goutte lui rappelle l'amour infini de Jésus pour elle, elle saisit exactement le cœur du message du récit de la Passion. Dieu aima tellement le monde qu'il envoya son Fils unique, pas pour condamner le monde, mais pour que ceux qui croient en lui soient sauvés. Ou bien, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Alors nous avons la liberté de prier en imagination, parce que quand nous le faisons, notre imagination très personnelle nous conduit très fertilement au cœur de la vérité profonde que Dieu veut que nous comprenions et recevions, par laquelle il veut nous nourrir dans ce passage particulier sur lequel nous sommes en train de prier. Saint Paul dit dans le chapitre 8 de la lettre aux Romains que nous ne savons pas prier comme nous le devrions, mais que l'Esprit Saint vient à l'aide de notre faiblesse, d'une manière trop impénétrable pour l'esprit humain. La même chose se passe ici. De la même manière que l'Esprit Saint vient à notre aide quand nous méditons sur le sens des mots de la parole « Heureux les pauvres en esprit », le même Esprit Saint vient à l'aide de notre imagination quand il pénètre dans la richesse d'une scène de l'Évangile. Je pense qu'aucun d'entre nous ne peut mettre en doute que cette femme, au pied de la croix qui entend le son feutré des gouttes de sang lui dire qu'elle est infiniment aimée, personne ne peut mettre en doute qu'elle est guidée dans sa prière par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient à l'aide de notre faiblesse quand nous prions ainsi. Ceci nous amène à un point de théologie. Il y a une vérité dans notre théologie qui soutient ce mode de contemplation en imagination. Parce que quelqu'un pourrait dire, disons par exemple que je suis en train de contempler la naissance de Jésus dans l'étable, à Bethléem. Je vois la scène, la pauvreté et la simplicité de la scène. Marie, Joseph, l'enfant nouveau-né, tout ce que quelqu'un verrait dans un endroit où des animaux sont gardés. Et cette personne pourrait dire « Bon, d'accord, mais ça s'est passé il y a 2000 ans et on est 2000 ans plus tard. » C'est vrai, bien sûr, que ces événements ont pris place il y a 2000 ans. Mais le pouvoir de ces événements, le pouvoir de salut de ces événements, la naissance et tous les autres événements de la vie de Jésus, la grâce de ces événements, pour utiliser le terme théologique correct, n'est pas liée au passé, mais est accessible à tous ceux qui croient en Jésus-Christ à travers les siècles. L'événement se situe à un moment précis dans l'histoire, mais la puissance de salut, la grâce de l'événement, est accessible à tous, à travers les temps, avec la même nouveauté, la même richesse que quand il s'est produit à l'origine. En fait, tout notre cycle liturgique annuel est basé sur cette vérité théologique. C'est pour cela que nous célébrons la messe de Noël le 25 décembre, ou que nous nous remémorons et célébrons la dernière scène le jeudi saint, ou la Passion le vendredi saint, ou la résurrection de Jésus à Pâques, ou l'Annonciation, ou l'Ascension, n'importe quel événement de la vie de Jésus. Nous le faisons non pas simplement pour nous remémorer des événements qui se sont déroulés dans le passé, mais parce que, à travers notre célébration liturgique et par notre présence dans l'Assemblée à l'Eucharistie, quand nous célébrons ces événements, nous avons accès à l'infini pouvoir de grâce qui s'est ouvert au monde quand ces événements sont arrivés initialement. Si c'est vrai au niveau de la prière officielle de l'Église dans le cycle liturgique annuel, c'est certainement tout aussi vrai dans notre contemplation personnelle des événements de la vie de Jésus. Alors quand je réserve 20 minutes, une demi-heure, et que je contemple la naissance de Jésus dans l'étable, dans le silence de ma chambre ou le calme de l'Église, et que je suis là en imagination que je vois Marie, Joseph et l'enfant nouveau-né, et la lumière, et la simplicité, et la chaleur, et l'amour, et la majesté de cette scène d'Évangile, et que mon cœur est touché, je suis prêt, ou pour utiliser l'expression même de saint Ignace, je dispose mon cœur à recevoir la puissance de la grâce qui est disponible pour toujours et pour tous les membres de l'Église, cette grâce qui est entrée dans le monde quand cet événement s'est déroulé historiquement il y a plus de 2000 ans. C'est le fondement théologique, la vérité théologique qui rend possible, qui explique pourquoi une prière comme celle de la contemplation est possible et qui révèle aussi quelque chose de son efficacité. Et quand nous commençons à comprendre cela, nous ne voulons plus nous en passer. Cette grâce est toujours disponible pour nous. Dieu est toujours en train d'attendre que nous soyons disposés à recevoir cette grâce qu'il est infiniment prêt à nous donner dès que notre cœur s'ouvre et se rend accessible pour la recevoir. C'est tout à fait comparable à la grâce extraordinaire que nous pouvons recevoir en priant le rosaire ou les stations du chemin de croix avec un cœur ouvert et offert. Ces deux prières sont d'ailleurs très contemplatives au sens ignatien du terme, très imaginatives. C'est d'ailleurs pour cette raison que les stations de la croix sont représentées dans les églises, pour aider à mieux engager notre imagination. Nous lisons aussi probablement une description de chacune des stations. Et ce que nous faisons, c'est suivre Jésus sur son chemin de croix, ce qui est tout à fait contemplatif. Et c'est la même chose avec le rosaire quand nous contemplons les mystères. Cela fait penser à cette magnifique lettre que Paul VI a écrite sur Marie en 1975, sur la dévotion à Marie, c'est son titre, dans laquelle il parle du rosaire et de la nature contemplative de cette prière, exactement dans ce sens. Nous contemplons les différents mystères ou événements de la vie de Jésus. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une fois qu'on a appris cette méthode de Saint Ignace, qu'on a compris sa vérité, on peut l'appliquer dans de nombreuses autres formes de prière dans notre vie de catholique, de chrétien, de disciple du Seigneur Jésus. Je voudrais reprendre maintenant le point que nous discutions la dernière fois sur la liberté que nous avons de nous arrêter à n'importe quel endroit dans le récit des Écritures, là où nous trouvons ce que notre cœur désire, ou, selon les mots de Saint Ignace, « Là où je trouve ce que je désire, là je resterai, sans anxiété à avancer, jusqu'à ce que mon cœur soit satisfait. » Je voudrais en donner un dernier exemple avant de passer à autre chose. Un exemple tiré des écrits de Georges Vanier, le père de Jean Vanier, que vous connaissez probablement comme le fondateur de l'Arche, ce mouvement dans lequel des volontaires vivent en communauté avec des personnes handicapées et en prennent soin. Un très beau mouvement qui s'est répandu dans le monde entier. Georges Vanier, donc le père de Jean, était gouverneur général du Canada, la fonction politique la plus élevée du Canada. Un homme très très estimé. En ce jour particulier, il décrit ce qui arrive alors qu'il commence sa demi-heure de prière journalière. Aujourd'hui, comme toujours, je commençais par remercier Dieu de me permettre de venir à lui. Puis, selon mon habitude, je dis que j'étais venu l'adorer, lui, le créateur du ciel et de la terre. Après une minute ou deux, je crois, mais je ne suis pas sûre du temps, je lui dis que je voulais l'aimer de plus en plus, que je savais qu'il m'aimait. Je lui demandais de me montrer comment l'aimer, parce que je ne savais pas comment faire, et que j'avais besoin de son aide. C'est alors que j'eus une surprise. Je me mis à répéter d'une manière à la fois intense et spontanée que je l'aimais, et que je le remerciais de me donner la grâce de l'aimer ainsi. Pendant un bon moment, je ne pouvais pas, et il souligne « je ne pouvais pas ». Pendant un bon moment, je ne pouvais pas avancer à l'étape suivante de ma prière. Mais je continuais à répéter que je l'aimais et que je voulais l'aimer plus. Je ne passais jamais à l'étape suivante. Je restais retenue à ce moment d'amour et je n'avais aucun désir non plus de le quitter. Avec beaucoup de respect parce qu'encore une fois, on est dans le domaine d'une expérience sacrée de relation personnelle avec Dieu. On peut dire que probablement, sans connaître l'enseignement de Saint Ignace et son vocabulaire, mais avec une intuition spirituelle très sûre, Georges Vanier fait exactement ce que Saint Ignace nous conseille. Il découvre avec surprise, alors qu'il suit son cheminement habituel de prière, que l'une des étapes absorbe complètement son cœur. Simplement répéter à Dieu encore et encore combien il l'aime et le remercier de la grâce de l'aimer ainsi. Il constate qu'il ne peut tout simplement pas passer au point suivant de sa prière et il reste là à répéter à Dieu qu'il l'aime et qu'il veut l'aimer encore plus. C'est exactement ce que Saint Ignace nous conseille de faire quand nous méditons ou contemplons un passage des Écritures. Reprenons le fil de notre conversation. Vous vous souvenez que nous avons longuement parlé dans une discussion précédente de la transition vers notre temps de prière, de ses étapes préparatoires, de l'invitation de Saint Ignace à prendre le temps qu'il faut pour dire à notre Père, pour élever notre esprit vers le Seigneur en considérant comment il nous regarde. Vous vous souvenez de cet exemple tout simple de la chaise retournée pour faire face à l'autre et permettre aux regards de se croiser. Regardez Dieu nous regarder, comme nous avions dit. La même remarque est vraie à l'autre bout de la prière, à la fin. J'arrive maintenant à la fin des 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes que j'ai passées à prier à partir des Écritures. Saint Ignace nous donne là aussi des conseils très simples mais très puissants pour une transition douce du temps de la prière formelle vers la reprise de nos activités du jour. Pour reprendre l'analogie des deux amis qui se rencontrent au café pour une conversation d'une heure, ils se sont donné le temps de commencer leur échange par des gestes et des paroles plus superficielles, avant d'entrer dans une conversation plus intime où les paroles coulent librement et le cœur parle au cœur. Il est clair que le cœur humain ne peut pas quitter instantanément et directement ce moment d'échange profond et reprendre les activités quotidiennes. Le cœur a besoin d'un espace de transition, à la fin aussi, Et dans des conversations de ce genre, nous le savons instinctivement, les paroles qui sont dites sont aussi plus superficielles. Nous avons besoin de cela. Cet espace d'échange plus banal pendant lequel nous nous disons au revoir nous permet de faire la transition entre le temps d'échange profond et le retour à nos activités. Le conseil de Saint Ignace pour une transition douce et fertile entre notre temps de prière formelle et ce qui va suivre, c'est-à-dire sur la manière de vivre les quelques dernières minutes de notre temps de prière, est ce qu'il appelle le colloque. Étymologiquement, ce mot vient du latin et veut simplement dire « parler avec » ou « conversation ». Pour bien expliquer ce dont il s'agit, nous allons d'abord regarder un exemple et ensuite nous reviendrons à l'enseignement de saint Ignace. Voici un extrait du journal de Thomas Merton à la date du 23 décembre 1949, donc 2 jours avant Noël, assez tôt dans sa vie monastique. Il est assis seul dans sa chambre l'après-midi. Noël est imminent et il est en train de regarder une carte postale envoyée par un ami. L'image sur la carte postale est cette peinture très classique de l'Annonciation par Fra Angelico. On y voit la Vierge assise sous ce qui ressemble à un portique avec des lignes très délicates et l'ange Gabriel qui s'approche sur le point de lui annoncer que Dieu l'a choisie pour être sa mère. Il écrit « L'Annonciation par Fra Angelico sur une carte postale envoyée par un ami, fin d'après-midi. La tranquillité de l'après-midi est imprégnée d'une tonalité complètement différente. Il la compare à la matinée ensoleillée et pleine d'énergie qu'il avait décrite également plus tôt dans son journal. Le soleil a poursuivi sa course et la pièce est plus sombre. Tout semble sérieux. Je prends le temps de prier et je regarde l'illustration de Angelico. Je me sens comme un dernier jour de l'Avent. Pendant à peu près 8 minutes, je suis resté silencieux, sans bouger. J'écoutais l'horloge et je me demandais s'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas de l'œuvre que la Vierge était en train de préparer. C'était un moment d'attente incroyable. Je me souviens encore de mon impression étrange, de ma peur, de mon incompréhension, de mon obscurité, de mon péché d'hyperactivité. Qu'est-ce qu'elle est en train de préparer? Qu'est-ce qui va se passer? Elle-même, son amour modèle les univers, façonne l'histoire, donne vie à la cité de Dieu. Je regarde le portique, paisible et austère, où l'ange de Angelico lui parle. Je me permets d'interrompre le récit pour noter que Thomas Merton utilise ici le mode de prière contemplatif, avec l'aide de cette peinture très connue de l'Annonciation. Son imagination a pénétré dans la scène de l'apparition de l'ange à Marie. Il continue. Angelico savait comment la représenter. Elle est mince, incroyablement noble, et elle ne se lève pas pour recevoir l'ange. Mère, rends-moi aussi sincère que l'image. Jusqu'au tréfonds de mon âme, sincère, sincère. Fais que je n'ai aucune pensée qui ne pourrait s'agenouiller devant toi dans le tableau. Aucune image, aucune ombre. J'ai confiance en toi, je suis silencieux. J'irai comme l'image. C'est la fin de l'avant et l'après-midi vibre de l'attente. Vous remarquez le déplacement de l'expérience spirituelle de Merton, depuis l'implication par l'imagination dans le mystère de l'événement des Écritures, vers la communication directe, au moment où il se tourne vers Marie, qu'il contemplait, quand il lui adresse la parole. Je regarde le portique paisible et austère. Elle est mince, noble, elle ne se lève pas. Il voit Marie qui est restée assise à l'approche de l'ange. C'est son imagination en activité. Et puis il y a ce changement, quand il commence à parler directement à Marie. « Mère, rends-moi aussi sincère que cette image. » Son expérience change, de la participation par l'imagination à un événement de l'Évangile, à une conversation directe avec un personnage de l'Évangile, Marie ici. C'est une transition tellement naturelle dans notre prière. Si nous n'avions pas interrompu la lecture du récit de Merton, nous ne l'aurions peut-être même pas remarqué. C'est tellement naturel quand nous contemplons un passage de l'Évangile. Par exemple, si je contemple le passage de la tempête apaisée, je suis dans le bateau, je vois la peur des disciples devenir panique, ils implorent Jésus qui semble indifférent à leur danger, à la tempête. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Cela devient complètement naturel pour moi de passer de l'imagination à la parole. Oui, Seigneur, il y a tellement de tempêtes dans ma vie en ce moment. Seigneur, sauve-moi, je suis en train de périr. Cette situation à la maison, ce conflit au travail, cette difficulté dans une relation, ce problème de santé que je rencontre. C'est tellement naturel qu'on pourrait penser que c'est inutile de le souligner. mais c'est vraiment utile de le décortiquer. Quand nous passons de l'activité de notre intelligence dans la méditation ou de notre imagination dans la contemplation à la communication directe et que nous commençons à parler au Seigneur ou, dans notre exemple, à Marie ou à une des personnes de la Trinité ou à un saint, une sainte, à ce point-là, nous entrons dans ce que saint Ignace appelle le colloque. C'est quand nous nous adressons au divin ou peut-être à un des saints. C'est fondamental à la prière. Souvent, on décrit la prière comme une conversation avec Dieu. Eh bien, d'une manière très concrète, c'est de cela qu'on parle. J'ouvre mon cœur aux Écritures, je prépare mon cœur par la réflexion ou l'imagination à entendre ce que Dieu veut me dire. C'est pour cela qu'on appelle la Bible la parole de Dieu. C'est le moyen privilégié que Dieu utilise pour nous parler quand nous ouvrons notre cœur à entendre ses mots. Quand mon cœur, comme celui de Merton, commence à répondre à ce qu'il a entendu, aux mots qu'il a reçus, et que je commence à remercier le Seigneur ou à demander une grâce particulière ou à exprimer ma joie, à le louer, maintenant c'est moi qui parle. Et à ce moment-là, la prière devient conversation avec Dieu. Dieu qui me parle par les Écritures et mon cœur en colloque, en communication directe avec lui, en conversation avec lui. À chaque fois que notre prière atteint ce point que saint Ignace appelle le colloque, que mon cœur spontanément et naturellement, après avoir reçu dans la méditation ou la contemplation les mots que Dieu avait pour moi, que mon cœur spontanément commence à parler et à répondre au Seigneur, c'est que nous avons atteint le point culminant, le centre de notre prière. Et quand nous avons atteint ce point, il n'y a aucune urgence à aller ailleurs, aussi longtemps que notre cœur sera nourri. Vous écoutiez Isabelle Rebelle, qui avait le plaisir de partager avec vous qui parlez français, le riche enseignement du père Timothy Gallagher sur la spiritualité ignatienne. Pour retrouver tous les entretiens originaux en anglais, rendez-vous sur le site www.discerninghearts.com.